Et nous allons ouvrir nos Bibles pour cela dans Matthieu chapitre 5, Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, où je lirai pour vous et avec vous les versets 21 à 26. Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26. Nous sommes donc dans un de ces chapitres particulièrement stratégiques des Écritures. Il s'agit de ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler la charte du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, c'est-à-dire du peuple sur lequel Dieu règne. Nous avons dans nos pays des constitutions. En France, on parle souvent de la constitution de 1958 qui fixe la manière de fonctionner de la République française, avec un conseil constitutionnel qui veille à ce qu'on ne dérape pas par rapport à cette constitution. Eh bien, nous pouvons considérer que dans le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est la même expression, hein, cela veut dire exactement la même chose. Dans Matthieu, c'est le royaume des cieux, tout simplement parce que les Juifs veillaient à ne pas prononcer le nom de Dieu. Donc, il préférait « royaume des cieux » et le rédacteur inspiré a tenu compte de cette sensibilité vu le public auquel il s'adressait d'abord à cette époque, n'est-ce pas? Eh bien, pour le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il y a une constitution. On n'y vit pas n'importe comment sous l'autorité du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et le Seigneur Jésus a été, sur ce plan, un révolutionnaire. Non par rapport à tout ce que disait l'Ancien Testament, mais par rapport à ce que les docteurs de la loi et les rabbins qui vivaient à l'époque de Jésus avaient fait du message de l'Ancien Testament, parce que on l'avait passablement modifié, amplifié, etc., etc., et les résultats étaient catastrophiques. Donc Jésus va mettre les pendules à l'heure en reprenant les grandes idées religieuses des anciens et en disant, écoutez, ils ont dit ceci, mais moi je vous dis, et je vous dis de la part du Père, c'est en accord même avec la pensée déjà dans l'Ancien Testament, il y a une rectification qui est faite. Et nous avons ici un de ces textes de rectification et d'amplification du message, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, voyez, les anciens, tu ne tueras point, tu n'assassineras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, de tribunal. Que celui qui dira à son frère « raca » ou peut-être « imbécile » mérite d'être puni par le Sanhédrin, ce grand conseil de sages qui était aussi chargé des jugement, et que celui qui lui dira insensé ou fou mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc une allusion très directe aux peines éternelles, à l'enfer, sur la base d'une illustration immédiate pour les premiers lecteurs et auditeurs d'ailleurs de Jésus. C'était donc une de ces décharges publiques qui nous en avons ici et là, hein, encore, de moins en moins heureusement, mais où le feu brûle continuellement, les odeurs sont pas très agréables, ce n'est pas très beau à voir. Il y en avait une là que les gens pouvaient voir tous les jours, dans les environs immédiats du cœur de Jérusalem et qui s'appelait le Gehinnom, d'où vient ce mot Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement ou vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, aux gardes, aux gendarmes aujourd'hui, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran ou le dernier centime. Bon, le cadran, ce n'était pas la plus petite pièce de monnaie, mais elle était dans cette hiérarchie de valeurs, elle était en avant-dernière position. Il y avait encore une pièce qui allait à la moitié de cette valeur. Mais enfin, c'était une valeur extrêmement basse et ça suffisait pour que chacun puisse comprendre. Et puis simplement dans l'épître de Jacques, vers la fin du Nouveau Testament, dans Jacques chapitre 1er, les versets 19 à 21, Jacques chapitre 1er, versets 19 à 21, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et ici, le mot colère, parce qu'il y en a d'autres, donne l'idée de quelque chose qui monte peu à peu, qui occupe de plus en plus de place, qui devient de plus en plus intense, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la cocotte minute explose. C'est vraiment quelque chose qui monte, la moutarde qui monte au nez, et puis un jour, ça fait des dégâts. Lente à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors je fais simplement remarquer au passage qu'il y a certainement un lien voulu dans la pensée de Jacques et dans celle de Dieu qui le dirige, entre le verbe « écouter » et le mot « souillure ». Parce que le mot « souillure », c'est un mot qui évoque une saleté, quelque chose de malpropre, de sale. Ça évoque d'ailleurs, à l'origine, le terme évoque toute substance gluante. Vous voyez ce que ça veut dire, toute substance gluante, y compris de la cire, par exemple. Alors, non seulement de la cire destinée à cacheter, mais aussi le cérumen, ces bouchons dans nos oreilles, qui peuvent nous faire terriblement souffrir, et dont nous avons besoin d'être débarrassés. Comme si Jacques voulait dire, écoutez, en étant prompt à écouter, n'oubliez pas de nettoyer vos oreilles. Parce qu'il y a peut-être des bouchons de cérumen, de la saleté, qui empêchent une écoute qui fera de vous un serviteur, une servante qui honore son Seigneur. Voilà donc pour nos deux lectures. Puisque nous avons eu une journée de coupure, mais sans du tout m'y attarder, je rappelle simplement que dans notre toute première étude, nous avons d'abord brossé, comment dire, le portrait, c'est délicat ce que je dis là, qui sommes-nous pour le faire? Le portrait du Dieu qui aime pardonner. Nous sommes arrêtés spécialement sur la mentalité de ce Dieu extraordinaire qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Et nous avons considéré qu'il s'agissait là de la toile de fond dont il fallait à tout prix se souvenir tout au long de la suite de nos études. Cette première étude d'introduction a débouché sur un premier pan de trois études centrées sur l'importance de la repentance. Pas de pardon sans repentance. Pas de réconciliation sans pardon ni repentance. Nous avons beaucoup insisté là-dessus parce que ça fait partie de ces éléments absolument fondamentaux et c'est là aussi que l'ennemi de nos âmes se focalise et s'acharne parce qu'il sait très bien que c'est là que ça commence souvent dans nos vies à bloquer. C'est William Booth, le fondateur de l'armée du salut, qui à la fin de sa vie a dit ceci, le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Et je suis frappé de constater que, en la matière, et de manière très ramassée, dans ce propos, il a été un prophète pour le XXe siècle. Mais je crois que ceci est d'autant plus vrai pour le XXIe. Nous avons terminé ce pan d'étude avant-hier en considérant la nécessité d'une vraie repentance. Pas de repentance au rabais. La grâce de Dieu n'est pas au rabais. Le pardon divin n'est pas au rabais. La repentance ne saurait être au rabais. Et donc nous ouvrons une série de trois réflexions maintenant, pendant lesquelles nous allons mettre une femme à la place des hommes qui ont occupé tant de place durant les premières études. Connaissez-vous Madame TGV? Connaissez-vous Madame TGV? Alors je vais vous aider, mais on va respecter les règles du jeu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si ça vous brûle les lèvres, pourtant, t'en souvenez-vous, hein? Prompt à écouter, lent à parler, c'est le moment ou jamais, hein? On ne dit rien pour que le jeu continue pour ceux qui n'ont pas trouvé, parce que ça nous aide à le retenir, hein? Alors on va avancer comme ça dans le portrait robot. Tout d'abord, éliminons d'emblée quelqu'un. Il ne s'agit pas de Madame Marthe. Parce que, bien entendu, en cherchant un peu, on peut se dire, ouh, ça pourrait être Marthe, parce qu'alors, Marthe, hein, c'était la fonceuse, la femme très organisée, elle était véritablement la maîtresse de maison dans le foyer de Lazare et de sa sœur Marie, hein, puisque ceci nous est dit tel quel. Hein, quand on arrive dans ce foyer, on arrive chez elle. Chez elle. Ce qui lui pose pas mal de problèmes. Hein, elle a pas mal de soucis à cause de cela. Dans ce sens qu'elle pourrait être une Madame TGV, mais pas au sens que nous allons examiner ensemble. Et elle n'a peut-être pas tout à fait l'équilibre de Madame TGV qui va nous intéresser. Donc, ce n'est pas Madame Marthe, l'hyperactive. Elle aime le Seigneur, mais elle est toute agitée, elle tourbillonne au-dedans et elle est agitée à l'extérieur. Elle éprouve le besoin de mettre les petits plats dans les grands. Bref, elle passe à côté du meilleur de Dieu au moment où Dieu souhaite qu'elle rencontre son fils Jésus-Christ et s'asseye à ses pieds. Deuxièmement, notre Madame TGV a un beau prénom qu'elle porte bien, à la différence de Monsieur Narcisse, puisque ce prénom signifie « Mon père est joyeux ».« Mon père est joyeux ». Je suis étonné que dans la famille évangélique, il y en ait si peu avec une telle signification. « Mon père est joyeux », il faut dire que sans doute a-t-elle été dès sa naissance un très très beau bébé parce qu'elle est belle. En tant qu'adulte, elle est belle. Vous savez que les prénoms choisis à la naissance, disons dans la semaine qui suit, obéissaient à un certain nombre de critères, de considérations, soit des événements qui se passaient dans le pays ou dans la famille, une mauvaise santé de la maman, des événements à venir que l'on pressentait heureux, l'état de l'enfant à la naissance. Et puis parfois, c'était de nobles préoccupations spirituelles qui conduisaient les parents à choisir un prénom plutôt qu'un autre pour manifester leur foi en des temps difficiles, etc. N'est-ce pas ? Donc, manifestement, la naissance de ce bébé demoiselle était quelque chose de beau qui a certainement profondément réjoui le cœur de son papa. Et qui sait, derrière ce papa, il y avait le Père Céleste aussi dont le cœur était réjoui. Elle était belle, intelligente, parce que beau et intelligent ne vont pas forcément ensemble, et pleine de bon sens. Pleine de bon sens, un ingrédient que nous souhaiterions plus généreux dans nos vies de disciples de Jésus-Christ. C'est fou ce que parfois la spiritualité peut nous ôter notre bon sens. Dieu veut que nous soyons pleins de bon sens. Il y a dans les Écritures des portraits d'hommes et de femmes de bon sens. Et voilà donc une femme pleine de bon sens. C'était si beau jusqu'ici, hein? Nous aurions aimé que le conte continue. Ils se marièrent, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais cette chère Madame TGV n'est pas heureuse en mariage. Loin de là. Elle a un mari qui est un véritable vaurien. Il est entêté, belliqueux, insensé, rustre, fou, obstiné. La Bible nous le présente comme un homme dur, un homme méchant dans le sens de malhonnête. Et il est tellement mauvais que on essaye de tout faire pour ne pas se trouver sur son chemin. Et pour ne pas avoir à lui parler, on craint de lui parler, on a vraiment peur de ce bonhomme et de ses réactions. Pour couronner le tout, il use, mais aussi abuse de la bouteille. Il aime l'alcool. Beaucoup. Et c'est quand même curieux, mais à sa naissance, on ne lui a pas donné un prénom très flatteur. Puisque, précisément, on l'a appelé fou. Fou. Je me serais empressé de demander plus tard à mes parents de m'emmener au tribunal pour changer de prénom. Préjudice moral sérieux. Fou. Mais ça colle. Allons un petit peu plus loin. Je suppose que certains ont déjà trouvé, parce qu'il y a des... Il y a... Bon, bref, vous comprenez. Allons un peu plus loin pour ceux qui cherchent encore, et je pourrais être de ceux-là. Cette Madame TGV a vécu, tenez-vous bien, elle a connu le bog de l'an 1000, avant Jésus-Christ. Elle a connu le bog de l'an 1000, vous vous souvenez, hein, du bog de l'an 2000, là, ces peurs qu'on a eues au niveau des ordinateurs qui fassent dérailler les avions et tout le reste, n'est-ce pas? Elle a connu celui de l'an 1000 avant Jésus-Christ, puisqu'elle a vécu à cette époque. Précisons encore un peu, Madame TGV apparaît, mais elle est encore demoiselle, alors que le futur roi David va bientôt souffler 30 bougies sur son gâteau d'anniversaire. Ça y est, je vois d'autres amis qui ont rejoint la cohorte de ceux qui ont déjà trouvé. Faut-il maintenant révéler le nom, tirer le rideau? Il s'agit bien entendu de Mademoiselle, pour commencer, Abigaïl. Abigaïl, 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel 25. C'est elle qui va nous intéresser. Dans un chapitre, long chapitre, qui pourrait nous arrêter, non pas durant 3 études, mais bien plus. Donc nous essayerons de tirer de ce chapitre certains enseignements fondamentaux et nous laisserons d'autres aspects, mais c'est un chapitre d'une immense richesse dans ce premier livre de Samuel. Nous allons donc nous intéresser aux circonstances d'une première rencontre très particulière entre le futur roi David et cette dame. Elle est dame, mais enfin, il va se passer des choses par rapport à, j'ai dit demoiselle, en fait elle est dame, mais il va se passer des choses par rapport à David, ça nous le verrons plus loin. David vit des jours très difficiles. Il vit des jours difficiles tout d'abord parce qu'il est fugitif, vous le savez. Il est pourchassé comme du gibier lors d'une chasse à courre absolument impressionnante dirigée par le roi Saül, flanqué de quelques 3000 rabatteurs, autant d'hommes d'élite de l'armée d'Israël. Fugitif, il a déjà connu quelques tentatives d'assassinat. Peu à peu, une troupe de plus en plus nombreuse est venue le rejoindre. Quelques hommes, quelques dizaines, puis 100, 200, 300, 400. On en est maintenant à 600 hommes qui gravitent autour de David, sans compter leur famille, etc., n'est-ce pas ? 600 hommes, qui sont tous des gens mécontents, endettés jusqu'au cou, en détresse, et dont il est devenu en quelque sorte le chef, chef de bande, véritable Robin des Bois. Et il souffre aussi parce que le verset premier nous dit que Samuel mourut. Et là où ces deux mots apparaissent comme un avis mortuaire aussi banal que ceux que l'on peut parfois lire dans les journaux et qui ne nous concernent pas, est dramatique pour lui. Pourquoi ? Parce que le vieillard Samuel a été un merveilleux conseiller, un homme plein d'expérience, d'une grande fidélité, vers lequel David a pu aller se réfugier lorsqu'il était pourchassé et serré de près par Saül. Il a pu aller partager avec lui, et je peux imaginer toute la sympathie du vieillard qui sait ce que c'est que de connaître des situations difficiles. En quelque sorte, Samuel a été le confident de David. Et là, il y aurait déjà beaucoup à dire sur l'importance pour les jeunes de choisir des aînés qui ont un long chemin avec le Seigneur derrière eux et qui ont appris l'art de l'écoute, qui ne sont pas là simplement du matin au soir à s'empresser de donner 1000 conseils, mais qui savent d'abord écouter, sympathiser, faire le geste qu'il faut. Hommes et femmes de prière, il y aurait tant à dire aujourd'hui là-dessus. Quel beau ministère. Samuel meurt. Et donc, David, même entouré de ses 600 hommes, doit se sentir terriblement seul à quelque part. Heureusement, c'est un homme de prière. Il a déjà expérimenté de manière extraordinaire 1001 interventions in extremis de la part de son Dieu. Et donc, il nous est dit qu'Israël s'étant assemblé, pleura Samuel, on l'enterra dans sa demeure à Rama. Et ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Est-ce qu'il a un peu plus de crainte que Saül recommence à le poursuivre, parce que le chapitre précédent est très intéressant, je ne vais pas y venir maintenant, mais il semble qu'il y a eu une sorte d'armistice entre Saül et David. En tout cas, il éprouve le besoin de bouger et de se réfugier dans les monts de Juda, au désert de Paran. Et il a maintenant des problèmes d'intendance, des problèmes de ravitaillement. Il faut nourrir ces 600 hommes au féroce appétit qui se dépense, qui sait si l'on cavale quand on est poursuivi par Saül et ses hommes. Et confronté avec ce problème, David pense alors à Nabal. Nabal, riche propriétaire terrien, il nous est dit au verset 2, il y avait à Maon un homme fort riche, littéralement lourd, c'est le mot hébreu, vous voyez, toujours l'idée du poids, la pesanteur, la gloire, un homme fort lourd, dont il a protégé les troupeaux contre les pillards du désert. Ceci nous est dit au verset 15 et 16, c'est un beau témoignage d'un des serviteurs de Nabal. Ces gens ont été très bons pour nous, ils ne nous ont fait aucun outrage, rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Donc, David pense que Nabal pourrait faire un effort maintenant pour rendre la monnaie de la pièce, d'autant plus que c'est l'époque de la tonte des brebis. Et l'époque de la tonte des brebis, c'est l'occasion d'une fête où les riches propriétaires savent se montrer généreux, surtout à l'égard de ceux qui ont protégé leurs troupeaux. Et donc David va faire une démarche tout à fait normale, inscrite dans la tradition de l'époque. Et pour cela, il envoie 10 jeunes gens en prenant soin de mettre sur leurs lèvres de manière scrupuleuse exactement ce qu'ils doivent dire à Nabal. Un point, c'est tout. Et donc, ces 10 jeunes gens vont jusqu'à Nabal, verset 9, et il est dit au verset 9 qu'ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Je le fais remarquer, c'est important. Ils n'ont rien ajouté. Ils auraient pu amplifier la démarche de David, ils auraient pu exagérer, ils auraient pu essayer de gratter quelques avantages en plus. Je suppose que la mauvaise réputation de Nabal était venue jusqu'à eux. on imagine qu'ils auraient pu avoir une attitude à quelque part quelque peu agressive, même par peur. Mais le texte est précis. David a mis sur leurs lèvres des paroles courtoises. Il s'agit d'une démarche humble et courtoise de la part des émissaires de David. Tout a été fait pour que cela se passe au mieux. Toutes les précautions ont été prises. Verset 10, Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David ? Qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Vous voulez faire de la psychologie ? Lisez la Bible. Quelle radiographie, hein ? Moi, 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 et encore moi. Au-delà de cette réponse égoïste, égocentrique et orgueilleuse, au-delà d'elle se cache la violation d'une règle fondamentale. En honneur, d'une manière toute particulière sur ces territoires, la loi de l'hospitalité. Et si vous avez visité certains pays, même parfois non loin de la Suisse et de la France, il y a encore en Europe des traditions de forte hospitalité, en particulier d'ailleurs dans les pays les plus pauvres. Et je me souviens du rouge vif, je dirais presque d'une certaine honte, d'un profond malaise, lorsque soit en Italie du Sud ou au cœur de l'Espagne, mon épouse et moi avons été accueillis avec une hospitalité, un amour pratique, immense, par des familles dont nous savions qu'elles avaient de la peine à nouer les deux bouts, n'est-ce pas, et qui étaient prêtes à s'endetter pour des semaines plutôt que de ne pas être généreuses dans leur relation avec ceux qu'elles invitaient. Donc c'est dans ce contexte qu'il nous faut voir la chose. Il s'agit donc d'un terrible affront pour David. Terrible affront. Et bien entendu, son sang ne fait qu'un tour. Et nous sommes maintenant non seulement en face de Robin des Bois, mais nous sommes aussi en face de Monsieur TGV, mais dans le mauvais sens. Monsieur TGV, puisque au verset 13, il nous est dit, David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Le texte ajoute, au verset 21-22, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal, ou même le moindre de tous ceux qui appartiennent à Nabal. Et Dieu va insister auprès du rédacteur pour que ceci soit encore repris au verset 34. Si tu ne t'étais hâté de venir au devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Monsieur TGV. L'hippopotame, moi, rugit. Le moi blessé s'exprime, se réveille. Et une fois de plus, nous avons dans ces textes comme un miroir de notre riposte agressive, si souvent immédiate à l'injustice flagrante. Je me reconnais. Et je ne saurais un seul instant vous faire de leçons. Riposte agressive immédiate à l'injustice flagrante. Miroir de l'impulsivité volcanique de notre cœur naturel. Quand le moi orgueilleux est blessé, piqué au vif, il m'a rendu le mal pour le bien, je lui rendrai le mal pour le mal. Oh, ça ne se traduit pas toujours directement ainsi. Il y a ceux qui avalent. Ils avalent l'affront. Parce que les tempéraments jouent, hein. Il y a ceux chez lesquels le sang ne fait qu'un tour, il y a les autres qui encaissent, et puis qui commencent à être barbouillés dedans, et qui entrent dans cette spirale destructrice, au départ secrète, mais de plus en plus publique, nous y reviendrons, qu'on appelle l'apitoiement sur soi. Il a été mauvais. Il ne m'a pas considéré. Il m'a marché sur les pieds. Et à la place du « il », vous mettez un « elle ». Alors, dans un livre dont je viens de terminer le premier tome, c'est d'ailleurs dans le premier tome que figure ce que je vais vous lire, je traite un petit peu de la question de l'apitoiement sur soi. Alors, c'est presque un scoop, hein. Je vais vous donner un extrait de ce livre. Il n'est pas encore publié, mais voilà un tout petit morceau. L'apitoiement sur soi est un fléau à la fois terriblement destructeur et particulièrement subtil. Il nous emprisonne, nous étouffe, nous submerge et nous envoûte à la fois. Agissant comme une drogue hallucinogène aux effets désastreux. Sangsue vorace aux innombrables ventouses, et là je cite l'auteur d'un livre, il nous absorbe, nous dévore, il déforme nos pensées, tord notre vision de nous-mêmes, des autres et de Dieu. L'apitoiement sur soi n'engendre que des personnes amères, aigries, cyniques. Fin de citation. Il nous maintient recroquevillés sur nous, les yeux rivés sur notre très cher moi. Cultivant un nombrilisme aigu, passant une grande partie de notre temps à nous poser en victime innocente, à nous prendre en pitié, à lécher nos plaies, à ressasser des griefs et des injustices, à nous lamenter sur notre sort. Chaque fois que nous nous complaisons dans l'apitoiement sur soi, c'est donc notre vieille nature déchue, tordue par l'égocentrisme, que nous satisfaisons et engraissons. En cédant ainsi à ses caprices orgueilleux, à son avidité gloutonne et insatiable, à ses exigences sans fin, nous la caressons, la chouchoutons et la dorlotons au lieu de la maintenir crucifiée. L'apitoiement sur soi est un serpent venimeux, parmi les plus dangereux au monde, à cause de sa capacité phénoménale à nous mettre en état d'hypnose, sans ressort, sans volonté, totalement engourdi, anesthésié, vidé de toute énergie. Johnny Erickson-Tada, tétraplégique depuis l'âge de 17 ans, fondatrice et présidente d'une association qui encourage les chrétiens à œuvrer au sein de la communauté des handicapés, a appris à fuir cet hideux reptile. Je la cite. La douleur physique et la souffrance émotionnelle font, il faut bien le reconnaître, partie de ma vie quotidienne. Je m'attendris sur mon sort un moment, pleure un bon coup, puis terminé, je n'en parle plus. J'ai appris, il y a bien longtemps, que s'apitoyer sur soi-même pouvait être un piège fatal. Et j'ai pris l'habitude de fuir ce sentiment comme la peste. Je ne m'attarde plus autant sur mon apitoiement, finis par me relever et poursuivre ma route. Ce qui est frappant dans notre histoire, c'est la manière dont David s'exprime face à cette injustice flagrante au verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Et il va se répéter, hein, puisqu'il nous est dit au verset 34, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, etc., n'est-ce pas ? Alors, j'aimerais souligner cet indice dans le texte qui nous montre que la réaction de David se veut réaction pieuse, religieuse. David appuie sa réaction sur Dieu. En quelque sorte, il veut agir au nom de la justice divine. Alors on pourrait, à la rigueur, dire oui, mais ça c'est un copiste qui devait être amoureux et son esprit s'étant envolé, il a quelque peu dérapé en copiant le texte. Mais comme c'est quelque chose de très important, et nous n'avons pas de copiste amoureux qui se soit occupé des Écritures, peut-être l'était-il, mais en tout cas il devait prendre des précautions tellement impressionnantes qu'il y avait des barrages filtrants pour éviter toutes sortes de problèmes de ce genre, n'est-ce pas ? Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir au chapitre 24 ce qui est dit dans une circonstance très très intéressante, puisque David vient d'échapper par la souveraineté de Dieu, du Dieu protecteur, il vient d'échapper in extremis aux sbires de Saül qui l'encerclaient, il était sur le point d'être arrêté et peut-être très rapidement exécuté, quand Dieu est intervenu, fidèle à ses promesses, pour entourer et protéger son oin. Et donc au début du chapitre 24, David monte de là vers des lieux forts. Je suppose qu'il a encore peut-être un peu les jambes flageolantes parce qu'il vient vraiment de sentir le vent du boulet, n'est-ce pas ? Mais il arrive dans les lieux forts d'En-Gedi. En-Gedi est un endroit délicieux, je pense que certains d'entre vous y sont sans doute allés. Ça a été un des endroits les plus merveilleux que nous ayons visités, puisque c'est une oasis verdoyante absolument extraordinaire, à deux pas de ce climat d'enfer de la mer morte, hein, puisque les insectes de l'oasis d'En-Gedi qui iraient volter au-dessus des eaux de la mer morte juste en dessous suffoqueraient dans les secondes qui suivraient leur arrivée et tomberaient, c'est ce qui se passe d'ailleurs immédiatement. Endroit merveilleux, et Dieu a été bon de donner ce lieu particulier pour que David puisse souffler un peu au contact d'ailleurs de tous ces animaux à quatre pattes là qui se promènent encore aujourd'hui dans la région. Nous en avons vu d'ailleurs quelques-uns, c'était impressionnant. Et donc, voilà-t-il pas que Saül arrive dans le coin avec ses 3000 hommes d'élite qui sont dispersés un peu partout. Lui, verset 4, arrive à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Voilà un de ces euphémismes encore, vous voyez. Euphémisme, il est entré pour faire ses besoins. Mais on a dit les choses élégamment, pour se couvrir les pieds. Et il y avait là des cavernes extraordinairement grandes qui pouvaient abriter pas mal de personnes. Et David et ses gens étaient là au fond de la caverne. Vous imaginez le tableau, hein? Je trouve la Bible extraordinaire. Il y a des récits suspense fantastiques. Hein? Et donc, les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » Rendez compte la coïncidence. Ah. Divine coïncidence. Enfin, je vais cesser de souffrir. Et ça fait déjà des années que ça dure. Et il s'est monté de trait tellement méchant, tellement injuste. Et de toute façon, j'ai été ouin pour être le roi, etc., etc. Sublime, suprême, divine coïncidence. Qui fait que David se lève, dit le texte, il se leva, coupa doucement le pan du manteau de Saül. Heureusement, parce qu'il vit des temps de souffrance, de difficultés, dans lesquels il apprend à communier en permanence avec Dieu. C'est dans cette période qu'il a composé ses plus beaux psaumes. Extraordinaire. Et je consacre tout un chapitre de mon nouveau livre à examiner justement David dans le désert, dans cette situation difficile, et comment les psaumes qu'il a prononcés à cette époque étaient les battements de cœur avec leur haut et leur bas de David en difficulté dans sa relation avec Dieu. Et comme il vit très près de Dieu, le cœur lui battit. La conscience le reprend. Son esprit est éveillé à la voix de Dieu. Un petit clignotant orange ou rouge s'allume sur le tableau de bord intérieur du cœur de David. Et il s'arrête. Il s'arrête. Il dit à ces gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Vous avez vu la manière dont les gens de David interviennent. C'est le jour où l'Éternel te dit. Dans un entretien hier avec quelqu'un qui n'est pas ici, ce quelqu'un à un moment donné m'a dit ceci. Deux fois dans ma vie, j'ai considéré que des événements étaient de telles coïncidences dans leur organisation que j'ai cru y reconnaître la main de Dieu. Et que j'ai donc, voyant dans ces coïncidences la main de Dieu, j'ai donc fait certaines choses, pris certaines décisions. Et la personne m'a ajouté, je peux vous dire que la gravité des conséquences de ces décisions que j'ai attribuées à Dieu m'accompagne maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Méfiez-vous, mes bien-aimés, de ces chers frères et sœurs en Christ tellement spirituels, qui vous apportent un message tombé tout droit du ciel comme s'ils avaient des rapports privilégiés et une sorte de téléphone rouge pour eux tout seuls. Et qui vous disent, ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a dit que voilà ce que tu dois faire. Mes amis, il y a trop d'enfants de Dieu qui au fil des siècles, des décennies, des années, des mois, même de cette année, ont pleuré et pleurent encore, parce qu'ils ont pris ces paroles pieuses au mot, pensant qu'elles venaient véritablement de l'Éternel. Et ils se sont fourvoyés. Et ces prophètes, soi-disant de Dieu, mais prophètes de malheur, eux continuent leur chemin pour faire leur ravage ailleurs, au nom de leur spiritualité. Alors attention, c'est trop facile de mettre Dieu à toutes les sauces. Quand nous entendons quelque chose de ce genre, plaçons-le devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Et croyez-moi, Dieu est assez grand, assez sage et assez rempli d'amour pour ses enfants pour nous dire, lui, à ce moment-là, ce qu'il en est. Là aussi, il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Pas seulement là où l'ivraie et le blé sont totalement visibles et séparables l'un de l'autre, mais bien avant, n'est-ce pas? Dans nos vies, dans nos relations les uns avec les autres. Parce qu'il y a trop d'excès dans ce domaine. Ce n'est pas le seul texte. Comme si Dieu voulait que nous comprenions combien cet enseignement est important, au chapitre 26, nous avons un schéma du même type. Certaines personnes, les Ziphiens, qui appartiennent à la même tribu que David, sont allés auprès de Saül pour moucharder. Nous dit le verset premier, « David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila, en face du désert ?» Donc, chapitre 26, verset 2, « Saül se leva, descendit au désert de Ziph, avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Hakila, en face du désert, près du chemin. » David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite dans le désert, au désert, il envoya des espions, apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait. Il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Héthien, et à Abishai, fils de Tseruja, Tseruja donc la sœur de David et frère de Joab, il dit « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Alors on n'est pas étonné quand on connaît un peu Abishai par d'autres textes des Écritures qu'ils disent tout de suite « présent hein, » parce qu'il était vraiment l'exécuteur trop souvent des basses œuvres, une sorte de Colson de Nixon dans l'affaire du Watergate et avant. Certains d'entre vous voient ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Qui heureusement a trouvé le Christ et qui est devenu un homme de Dieu, que Dieu utilise grandement, surtout dans son œuvre parmi les incarcérés. Et donc Abishai est là, présent, moi je descendrai avec toi. Il se frotte les mains et il aiguise son arme. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saül était couché, dormait au milieu du camp, sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui, et que se passe-t-il? Ça démange à Abishai comme jamais, c'est pas la première fois ni la dernière. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi je te prie le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. On voit le tempérament du bonhomme. Hein? Mais vous remarquez qu'il dit c'est Dieu. C'est Dieu. Et heureusement, ça c'est une des qualités spirituelles de David. David était un homme qui savait apprendre ses leçons. Vous savez, on peut parfois en tant que croyant entendre et vivre 10 fois le même enseignement, la même situation et ne jamais rien apprendre. Et les Écritures parlent de ceux qui justement sont toujours en train d'être enseignés et n'apprennent jamais rien. David avait cette qualité de cœur, quand Dieu lui apprenait quelque chose, il en tenait compte lorsque le problème se reproduisait. Il a vécu 1 Samuel 24 et 25, là il réagit immédiatement de la bonne manière. Remarquez, David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en, etc., etc. Vous voyez, il a appris sa leçon. Et je pense que, sans doute, comme nous allons le voir, Abigail n'est pas pour rien non plus dans cette attitude particulière de sagesse. On peut dire que 1 Samuel 24, 25, 26, c'est l'apprentissage et le développement du fruit de l'esprit dans l'Ancien Testament. 3 chapitres où, d'une manière toute particulière, Dieu fait un travail sur le caractère, sur le cœur, sur la vie personnelle, le comportement de son serviteur David. Vous connaissez Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la maîtrise de soi ou la tempérance. Une sorte de ramasser de la beauté du caractère de Christ tel qu'il se développe progressivement par le travail permanent du Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui accepte sa domination, n'est-ce pas? Donc 1 Samuel 24, 25, 26, c'est ça. ce travail de Dieu dans le domaine du caractère. Mais je crois qu'il était important de souligner nos saintes colères pour des raisons d'ordre spirituel, pour ce qui nous apparaît légitime, pour ce qui nous apparaît comme la logique de la justice. David voulait être le bras justicier de Dieu en action. Non seulement il était centré sur la défense en quelque sorte de ses droits. J'ai droit à l'hospitalité puisqu'elle est inscrite dans la coutume de mon peuple. Et il y a droit. Mais plus encore, raison plus noble quand on a affaire à Nabal. Nabal, l'égoïste, l'orgueilleux, l'homme ingrat à l'égard de Dieu. L'homme qui dit, tout ça c'est à moi, Dieu n'a rien du tout à voir dans ce cheptel, dans toutes mes propriétés, dans la lourdeur de mes richesses. Non, tout cela c'est le fruit de mon travail, de ma sueur, de ma transpiration, de mes engagements, de mes nuits blanches. Dieu est complètement à l'extérieur de tout ça. Alors, eh bien, quand quelqu'un est insensible à l'égard de Dieu, ingrat, insensible à l'égard de son prochain parce que l'un va avec l'autre, il mérite une bonne leçon. Et c'est intéressant parce que vous avez trois psaumes qui rejoignent curieusement 1 Samuel 24, 25, 26. Je veux parler des psaumes 52, 53 et 54. Regardez tout d'abord le psaume 53. Psaume 53. Psaume 53. Au chef des chantres, sur la flûte, cantique de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors je le lis maintenant simplement à partir du texte hébreu. Nabal dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Le mot insensé, c'est le nom Nabal. Tel quel. Nabal dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et c'est d'autant plus important que si vous allez au psaume 52, le psaume précédent, vous avez dans l'introduction de ce psaume les circonstances qui ont conduit à sa rédaction. Cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg l'Édomite vint faire à Saül, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. En fait, il est question ici de 1 Samuel 22, donc d'un chapitre qui est extrêmement proche, voyez, chapitre 22, 53 c'est chapitre 25, et 54, au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous ? Et là, nous avons un psaume qui colle avec 1 Samuel 23 et 26. C'est-à-dire que, voyez, le psaume 53 est vraiment là aussi au cœur d'une réflexion qui colle avec toute cette période de la vie de David que nous sommes en train d'examiner. Le psaume 52, c'est le 1 Samuel 22. Le psaume 53 est une allusion à 1 Samuel 25. Et le psaume 54 traite d'1 Samuel 23 et 26. C'est intéressant à faire remarquer au passage. Et nous devons aller vers la conclusion de ce premier pan de nos trois études. Une remarque extrêmement importante. Elle concerne la mentalité qui prévalait à l'époque de l'incarnation du Fils de Dieu. Quand Jésus est venu au monde dans cette étable à Bethléem. Quelle était la dominante de la mentalité de l'époque? Mentalité très marquée, d'une part par Rome et par la Grèce. Et au niveau du caractère, la philosophie grecque avait beaucoup marqué les mentalités. Dans les plus beaux sommets du caractère, un mot voulait tout dire. Quand quelqu'un se conduisait de manière remarquable, quand il faisait preuve d'une grande générosité, quand il était magnanime à l'endroit d'adversaires, de prisonniers, on parlait de la grandeur d'âme. La grandeur d'âme. La mégalo, psychia, vous reconnaissez mégalo, mégalomanie, psychia, psyché, tout ce qui appartient à l'esprit, à la pensée, à l'âme en particulier, c'était la plus grande des vertus. Et dans cette plus grande des vertus s'inscrivait aussi le refus de tolérer l'insulte. Le refus de pardonner l'offense, l'esprit de vengeance à cause de l'honneur bafoué. Il y a des limites. Il y a des limites à ne pas franchir. Trop, c'est trop. Si vous lisez du Shakespeare, du Racine ou du Corneille, vous pouvez être saturé de cet esprit-là, et généralement, il y a toujours du sang qui finit par couler à quelque part, après que des soufflets aient été donnés, n'est-ce pas? Il y a dans notre esprit toutes sortes de scènes, de grandes pièces, qui immédiatement apparaissent. D'ailleurs, dans le vocabulaire de cette époque, dans le vocabulaire profane, il est un mot que les païens n'utilisent pas. Un mot même dont on pense qu'il a été forgé de toutes pièces par les chrétiens. Peut-être même par l'apôtre Paul. C'est le mot grec qui a donné en français l'un des mots grecs qui a été rendu en français par le mot humilité. L'humilité, elle n'est pas utilisée dans le langage païen, sinon certains mots qui appartiennent à la famille du mot humilité. Mais quand on utilise ces mots dans les écrits antiques de la Grèce antique et jusqu'à la période de Jésus, c'est toujours pour définir l'humilité comme quelque chose d'abject. Le plus abject qui soit, une personne humble, c'est une personne dont la seule dignité est d'être méprisée. C'est l'humiliation de l'esclave accroupi qui rampe aux pieds de son maître. Et le Seigneur Jésus arrive. Et j'étais tellement reconnaissant pour l'introduction de tout à l'heure, pour la lecture et le chant qui tournait autour de Philippiens 2. Parce que quand Jésus va parcourir les routes de Palestine, ce sera pour renverser toutes ces valeurs, n'est-ce pas? Et à la place de la mégalopsychia, de la grandeur d'âme, il va démontrer par sa vie, par son caractère, et dire dans son enseignement la valeur suprême de la macrotumia, c'est-à-dire la longueur d'âme. La grandeur d'âme, c'est dans ce sens. La longueur d'âme, c'est dans ce sens-là. Mot grec rendu par le mot patience. C'est-à-dire l'amour patient. L'amour qui porte qui porte et qui supporte et qui supporte encore l'amour qui riposte à la haine par la douceur, par le pardon, la longanimité, ce vieux mot français, n'est-ce pas ? La patience, qui est une marque de l'humilité, humilius, c'est-à-dire être au plus près du sol, être tout près de l'humus, tout près du sol, le plus bas possible. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas regardé comme une proie arracher son égalité avec Dieu. Il s'est humilié, humilié lui-même, dans une obéissance qui est allée jusqu'à l'obéissance suprême du serviteur qui finalement donne sa vie, meurt sur la croix, alors qu'il n'est pas coupable, alors qu'il n'a rien à se reprocher. Mais il le fait par pur amour, amour pour le Père, amour pour les hommes, soumission volontaire à la volonté du Père, afin que nous, ses ennemis, nous puissions connaître le pardon et la réconciliation. L'amour constant, persistant, patient, qui continue à pardonner, à faire le bien, même dans les circonstances les plus adverses, malgré le pouvoir de la vengeance. Nous retrouvons ici le Dieu lent à la colère, riche en bonté, en vérité, en fidélité. Un jeune garçon à qui l'on demandait ce qu'était le pardon fit cette belle réponse: c'est le parfum des fleurs quand on marche dessus. Le parfum des fleurs quand on marche dessus. J'aimerais vous laisser simplement ce beau témoignage. Un jour, on amena un nouveau détenu dans la cellule d'une prison roumaine où se trouvaient déjà quelques prédicateurs de l'Évangile. À son arrivée, il fut reconnu comme l'un des fonctionnaires les plus haut placés de la police secrète et qui avait déjà arrêté et interrogé de nombreux chrétiens. Comment est-ce possible ? Lui fut-il demandé. Pour toute réponse, il raconta l'histoire suivante. Il y a quelque temps, un enfant de 12 ans vint à mon bureau. Il tenait une fleur à la main. Étonné, je lui demandai des explications. Aujourd'hui, répondit-il, c'est l'anniversaire de ma maman. Je l'aimais beaucoup. Elle lui offrait toujours des fleurs pour son anniversaire. Mais vous avez mis mes parents en prison parce qu'ils sont croyants. Je n'ai plus personne à qui donner cette fleur. Donnez-la à votre femme. Dites-lui que je l'aime et parlez-lui de Jésus. Le garçon me tendit la fleur. J'étais ébahi et ne cessais de le regarder. C'est alors que je remarquai à quel point ces paroles m'avaient touché, car j'avais les larmes aux yeux. Je ne pus que le prendre dans mes bras et lui promettre de ne plus arrêter de croyant. Et je fis plus que tenir parole, car je devins moi-même croyant et remis ma vie entre les mains du Seigneur. Cet enfant avait réussi à m'aimer, moi, son ennemi, et c'est cet amour qui m'a appris à aimer en retour. Je fus arrêté peu de temps après. Et voyez-vous, en conclusion de la première de ces trois études, sur le relationnel, les uns avec les autres, une question, grande question, jaillit inévitablement. Comment réagissons-nous face aux injustices qui nous atteignent personnellement? Et à ces injustices qui peuvent nous faire parfois terriblement mal, de la même manière que nos propres injustices à l'égard d'autrui peuvent laisser de très profondes blessures dans leur esprit, dans leur cœur. comment réagissons-nous? Et pour nous aider dans ce domaine, simplement là aussi, deux brèves histoires. Celle d'un vieil Anglais tout d'abord, connu dans son village et aimé à cause de son influence positive. Un jour, un jeune homme en colère, qui venait de se faire insulter, vient le trouver, lui explique la situation et lui dit qu'il est sur le point d'aller demander à celui qui l'avait offensé de s'excuser. « Mon cher garçon, répond ce vieux papa, prends conseil d'un vieil homme qui aime la paix. Une insulte, c'est comme de la boue. On peut l'enlever beaucoup plus facilement lorsqu'elle est sèche. Attends un peu, jusqu'à ce que toi et lui soyez tous deux calmés, et le problème sera facilement résolu. Si tu y vas maintenant, tu ne feras que te quereller. » Le jeune homme suivit ce sage conseil et il put bientôt aller trouver l'autre pour résoudre le problème. Un vieux serviteur de Dieu donna un jour le conseil suivant. Quand il y a de l'orage dans l'air, restez tranquille. Quand la calomnie se met en route, restez tranquille. Si on vous a blessé dans vos sentiments, restez tranquille, du moins jusqu'à ce que vous vous remettiez de votre agitation. Les choses semblent toujours différentes quand on les regarde avec les yeux de la grâce. Dans un état de colère et d'agitation, j'ai écrit un jour une lettre. Après coup, j'aurais bien aimé ne pas l'avoir envoyé. Au cours des années, et grâce aux épreuves qui ont affiné mon âme et ennobli mon caractère, j'ai appris certaines leçons dont j'avais absolument besoin. Plus tard, j'ai connu une autre période de tension émotionnelle. J'ai écrit encore une fois une longue lettre, mais cette fois-là, je l'ai laissée dans ma poche. J'ai été extrêmement content d'avoir agi ainsi. De jour en jour, le message semblait de moins en moins nécessaire. Je ne savais pas si la personne allait être blessée par ma lettre, mais dans le doute, j'ai plutôt opté pour le silence et j'ai finalement...